en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue de nouveau sur notre plateau Action Logement Groupe. Comme chaque année, vous le savez, Action Logement est présent sur le Salon des maires et des collectivités, au plus près des élus pour accompagner les transitions et les mutations des territoires. Sur ce plateau, nous accueillons des élus, des partenaires ou des filiales pour échanger sur les grands enjeux locaux qui font votre quotidien. L'occasion également de vous faire mieux découvrir notre mission d'utilité sociale en lien avec nos engagements RSE et nos ambitions 2030. Pour cette séquence, je vous propose de partir dans le sud, les Bouches-du-Rhône. Avec vous, Nicolas Isnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Salon de Provence.
C'est ça.
Et on va parler évidemment d'enjeux de logement en lien toujours avec la vitalité économique des territoires, les tensions qui peuvent exister, puisque vous êtes aussi le président du conseil d'administration de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Maire depuis 10 ans, et vous me disiez que c'est aujourd'hui même que vous fêtez vos 10 ans de mandat. Donc, toutes nos félicitations. Et pour parler de ces sujets avec vous, il y a Sandrine Bordin, la directrice régionale d'Action Logement Service PAC à Corse, et Éric Pinatel, le président de l'ARHLM et DG d'Unicil, évidemment dans la même région. Merci à tous les trois d'être avec nous. Monsieur le maire, ma première question, elle est pour vous et elle est traditionnelle. Si vous pouviez peut-être un peu nous présenter votre commune, votre territoire et évidemment les enjeux qui sont les vôtres sur ces questions du logement.
Complètement. Bah, écoutez, d'abord, merci de votre accueil. Commencer quand même par une rectification. Ça ne fait pas 10 ans, jour pour jour, que j'ai été élu aujourd'hui. Je vous ai dit ça parce que j'espérais peut-être un petit gâteau, quelques bougies.
Mais normalement, voilà. Il arrive.
Voilà. Elle va arriver, d'accord. Non, mais effectivement, j'ai été élu en 2014 maire d'une ville extraordinaire, Salon de Provence, 46 000 habitants, 140e plus grande ville de France, et puis ville centre d'une agglomération qui compte 200 000 habitants. Salon est une ville des Bouches-du-Rhône, magnifique département aussi, et qui est également située au sein de cette région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, je dirige cette ville depuis 10 ans, et effectivement, bon, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai vu en 10 ans ma ville, qui est reconnue pour son dynamisme, sa qualité de vie, même si je suis mal placé pour en parler, j'ai vu cette ville évoluer favorablement dans beaucoup de domaines, sauf un, qui devient aujourd'hui très problématique pour nous et qui est la première difficulté que rencontrent mes concitoyens, l'accès au logement. Aujourd'hui, accéder au logement dans une ville comme Salon et plus largement dans l'ensemble des territoires qui font cette belle région sud est devenu le parcours du combattant. L'offre de logement s'est effondrée, le nombre de demandeurs a augmenté, donc il y a un effet ciseau qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile et très compliqué de se loger dans ma ville, dans sa périphérie, dans cette région. Il y a plusieurs explications à tout ça, on y reviendra sûrement, et peut-être quelques raisons aussi d'espérer et quelques solutions à apporter.
Parmi les sujets effectivement qui font qu'il y a cette tension, que c'est devenu excessivement compliqué, est-ce que peut-être il y a aussi un paradoxe, j'allais dire, d'une sorte de rançon de l'attractivité et de la qualité de vie? C'est-à-dire que ces régions se sont fortement développées, attirent du monde, et du coup, ça ne va pas assez vite en face pour répondre à la sollicitation?
Alors oui, mais pas que. Effectivement, le Sud est une région très attractive, mais pour autant, le problème que je décris dans le Sud, c'est un problème qui est transversal à toutes les régions. Donc il y a un problème, je pense, plus profond dans ce pays, qui est très simple à expliquer. Voilà, pour loger les gens, il faut des logements. Pour construire des logements, il faut des terrains. Si on considère qu'il ne doit plus y avoir de terrain dédié à la construction de logements, eh bien, il n'y a plus de logements. Voilà. Donc aujourd'hui, la difficulté, elle est facilement résumée à travers mes propos. Nous avons rétréci les espaces dédiés à la construction de logements. Nous allons même, car probablement, ici, les lois restent en l'espèce, eh bien, peut-être arrêter tout foncier dédié à la construction de logements. Et du coup, si on ne met pas de foncier sur le marché pour construire du logement, ben, il n'y a plus de construction de logements, ou très peu. Donc le problème, il est là, c'est qu'on a voulu sacraliser peut-être et démultiplier les règles qui empêchent les constructions. Sauf, je le redis, que si on ne construit pas, on ne loge plus. Et nous sommes toujours plus nombreux dans cette région qui est la mienne, mais également dans ce pays. Et donc, il faut toujours plus de logements. Donc il faut trouver un équilibre. Cet équilibre, il a été rompu parce qu'on est allé trop loin dans des lois qui ont voulu mettre un terme à l'usage de foncier qui est pourtant nécessaire à la construction.
Alors c'est vrai que c'est dans beaucoup d'endroits une difficulté majeure, et pour les élus une source de tension, y compris quand on n'arrive pas à loger sa population, notamment en lien avec y compris le dynamisme économique. C'est aussi parfois une difficulté, je le sais, pour des élus d'arriver à trouver et à construire une sorte d'équilibre. Vous l'évoquiez, je sais que beaucoup d'élus sont sensibles au maintien de la mixité sociale, au fait de pouvoir avoir une croissance et des équipements et de la préservation de l'identité. Comment est-ce que, par rapport notamment à ces enjeux peut-être plus durables, plus de transition écologique, de sobriété foncière, comment est-ce que vous envisagez de trouver un équilibre si tant est qu'il puisse exister ?
Je pense que l'équilibre peut exister. De toute façon, nous sommes condamnés à trouver un équilibre. Parce que sur ces questions, je pense qu'il faut éviter d'être radical et radicalisé. Voilà, ce n'est pas ou la sobriété ou la construction. Je pense qu'on peut faire les deux ensemble. Aujourd'hui, on a choisi la sobriété à l'extrême. Et donc, on a comme contrepartie de ne plus produire assez de logements. Je vous donnerai quand même un chiffre. Sur l'ensemble de la région sud, il faudrait construire chaque année 30 000 logements, ne serait-ce que pour répondre à la demande des habitants déjà présents dans notre région. L'année dernière, nous avons construit moins de 20 000 logements. Voilà, moi, il y a 10 ans, quand je deviens maire, on construit environ 400 logements dans ma ville par an, ne serait-ce que pour répondre à la demande de la population existante. Aujourd'hui, on est en train de descendre en dessous des 100 logements produits par an. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Le nombre de demandeurs de logements explose, notamment le nombre de demandeurs de logements sociaux, et on ne peut plus se loger. On ne peut plus louer un HLM, on ne peut plus louer un logement privé parce que les prix se sont envolés, et on ne peut plus accéder à la propriété parce que la rareté du foncier est telle qu'il est impossible aujourd'hui à une multiplicité, une multitude de ménages d'accéder à la propriété. Et ça, c'est pas acceptable pour le maire que je suis. Le maire que je suis considère qu'il y a deux fondamentaux pour que chacun de mes concitoyens réussisse sa vie. Vous savez, moi, les gens qui viennent me voir, ils me demandent deux choses, pas trois, quatre ou cinq. Ils me disent, monsieur le maire, moi, je veux un toit. Et je veux pouvoir boucler mes fins de mois avec une fiche de paye qui soit correcte et, si possible, un CDI. Si dans ce pays, on loge et on donne du travail à nos concitoyens, on aura résolu 90% des problèmes. Aujourd'hui, on donne du travail, beaucoup plus qu'avant, et c'est tant mieux. Mais par contre, on est en train de ne pas mesurer et de prendre la mesure de cette crise du logement qui s'est installée, qui est en train de prospérer et qui, si elle n'est pas réglée et anticipée, pourrait déclencher des mouvements sociaux qui pourraient être d'une ampleur inconsidérée et inimaginable à cet instant.
Alors, le constat, il est lucide, il est concret, il est vécu. Je me tourne vers vous, peut-être Éric Pinatel. Hein, vous êtes le président de l'ARHLM, DG d'Unicil, donc une vision aussi peut-être à l'échelle régionale. Je suppose que vous n'êtes pas forcément loin de penser à la même chose, en tout cas sur les difficultés. La question qu'il y a aussi derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut commencer à envisager comme piste de solution et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, quelque part ?
Oui, tout à fait. Là, je l'avoue que je partage complètement les propos de Nicolas Isnard. Et en plus, je trouve que sa ville, c'est un bon exemple, parce que depuis que M. Isnard a pris les commandes de cette commune, son attractivité a fortement augmenté. Et de grands nombres de gens ont envie d'y habiter, alors que ce n'était pas nécessairement toujours le cas il y a encore une vingtaine d'années. Et on a été rattrapé et dépassé par tout ce qui est finalement coût de foncier parce que les disponibilités étaient extrêmement faibles. Et donc, alors qu'on a une ville qui est en capacité économiquement de prendre une autonomie par rapport aux métropoles, par rapport à Aix-en-Provence, et justement de porter un modèle économique sur un territoire qui n'était pas jusqu'à présent, eh bien, on ne peut pas accompagner cela à cause effectivement de la rareté du foncier. Alors, si on regarde au niveau régional, comme le disait Nicolas Isnard, il parlait de 30 000 logements. En matière de logement social, on devrait normalement en produire entre 15 et 20 000 par an. Cette année, si on atteint 5 000, ça sera un maximum. Pendant ce temps-là, la demande de logement qui était de 180 000 passe à 220 000. Des problèmes énormes, on sent une tension, on commence à traiter la pénurie. On travaille aujourd'hui donc avec derrière tous les gens qui finalement n'obtiennent pas de logement et qui commencent à poser le vrai sujet. Nos équipes qui sont en train de gérer l'absence de logement par rapport à une autre absence de logement, on est vraiment dans un moment très compliqué. Les raisons, elles peuvent être multiples. Nous sommes dans une région où il y a 90 communes carencées. c'est-à-dire la région où il y a le plus de communes carencées. Les raisons, elles sont multiples. Il y a certains maires, effectivement, qui ne sont pas des maires bâtisseurs, mais quelques-uns. Il y a aussi toutes les contraintes, effectivement, réglementaires liées à la disponibilité ou à la possibilité de construire sur du foncier qui se retrouve bloqué pour problématiques de problématiques d'inondation ou de... Voilà.
Et, risque naturel.
Risque naturel, oui. Voilà, merci. Et puis, quand on a des maires comme Nicolas Sénard qui veulent construire, bien effectivement, l'absence de foncier ou son coût, depuis des années, ça n'a pas été régulé, sur la région particulièrement. Et finalement, c'est une région sur laquelle on compte beaucoup sur les promoteurs pour produire du logement, y compris du logement social. Et quand la crise rattrape les promoteurs, comme c'est le cas actuellement, eh bien on ne produit pratiquement plus rien. Il n'y a pas la place pour que les bailleurs viennent travailler en maîtrise d'ouvrage directe.
Vous vouliez réagir peut-être, monsieur le maire.
Je voulais abonder dans ce qui vient d'être dit en prenant des exemples chiffrés et concrets, parce que c'est toujours précieux, pour mesurer ce qui se passe. Moi, j'ai une petite société de HLM à Salon de Provence qui gère un petit patrimoine avec 1300, 1500 logements sociaux sur la ville. Il y a 10 ans, il y a même 5 ans encore, quand nous achetions en VEFA, donc construit du logement social, nous étions à 2300 euros, 2200 euros, 2500 euros maximum le mètre carré. Aujourd'hui, on est entre 3005 et 4005. Voilà. Donc aujourd'hui, une société d'HLM, et trouvez-moi un bailleur HLM qui, à ce prix-là, achète du VEFA pour le mettre dans le parc social, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas tomber les prix du foncier, si on ne fait pas tomber les prix qui permettront de sortir des constructions à des prix plus bas, on ne sortira pas de l'ornière et au contraire, on va amplifier les chiffres que vient de donner M. Pinatel.
Sandrine Bourdin, le constat est partagé, la situation est inquiétante, on sait qu'il y a plein de raisons. Vous, en tant que directrice régionale d'Action Logement, vous avez évidemment la conscience de tout ça. Quelles sont les différentes perspectives que vous pouvez proposer aux élus et aux collectivités? Comment vous agissez sur ces enjeux aujourd'hui, sans peut-être aller à ce point-là jusqu'au choc foncier, parce que là, ça ne dépend pas de vous, mais comment on peut faire pour accompagner cette situation délicate?
Alors, le groupe a déjà commencé en 2023, puisqu'on avait lancé un appel et manifestation 30 000 logements pour l'emploi, pour intervenir aux côtés des promoteurs qui n'arrivaient pas à sortir leurs opérations. Donc, je crois qu'à l'échelle de PACA, on doit être à 3 000 et quelques logements, Eric. Oui. Voilà, donc ça a été une première réponse en tous les cas, et avoir véritablement une offre aujourd'hui pour répondre à la demande. Nous, chez Action Logement Service, donc à l'échelle régionale, et pour compléter un peu les propos de Nicolas Isnard, nous, on a une solution logement pour 15 demandeurs au niveau des salariés. Ça veut dire que derrière, il y a un impact sur l'attractivité du territoire, puisque ça ne permet pas aux entreprises d'assurer le recrutement s'il n'y a pas de logement. Donc c'est une double crise qui est en train d'arriver, donc une bande sociale. Et comme disait Eric, on a des situations aujourd'hui d'urgence absolue, puisque nous, on se retrouve à positionner des salariés qui ont du pouvoir d'achat sur des structures collectives temporaire du fait du défaut de l'offre. Et en tous les cas, nous en PACA, on a continué, c'est le choix du groupe, d'accompagner, une volonté forte d'accompagner les opérateurs sociaux avec des enveloppes importantes pour assurer en tous les cas et les accompagner dans ce modèle économique qu'on voit qui reste certes compliqué. Mais malgré ça, c'est quand même pas suffisant. Il faut vraiment avoir une intervention très forte sur la régulation en tous les cas du prix du foncier.
Et cette régulation, du coup, elle dépend
du législateur.
Du législateur.
Voilà, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, et il semblerait qu'on avance quand même, puisque j'ai vu le Premier ministre faire des annonces intéressantes, si vous voulez, il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. L'objectif, c'est à terme, d'ici 2050, de se diriger vers le zéro artificialisation net, le fameux ZAN. Ça veut dire que si on laisse les choses en l'État, en 2050, toute terre qui est non artificialisée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'accueille rien, aucune construction, dont les espaces est vierge, même un jardin en cœur de ville, voilà, ne pourra plus être construit. Donc on ne pourra construire que sur du déjà construit. Mais ça, c'est pas possible. Si on reste comme ça et qu'on dit on ne peut plus rien toucher, plus aucune terre ne peut accueillir du logement, on va tellement raréfier le peu de terre qui pourrait être construit qu'on va faire monter les prix des constructions à des niveaux inaccessibles pour qui que ce soit. Donc aujourd'hui, il faut un choc de l'offre. Il faut remettre de la terre à disposition de la construction de logements. C'est la seule unique solution. Le reste, Je suis au regret de dire que ce sont des emplâtres sur des jambes de bois, des mesurettes, on appelle ça comme on veut. Mais à un moment, pour construire des logements, il y a une évidence, il faut du terrain. Et si on ne met pas de terrain, il n'y aura pas de construction de logements. Et si on ne construit pas de logements, on va resserrer l'entonnoir jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, le peuple se soulève en disant « Moi, je demande juste une chose, un toit, donnez-moi ce toit ».
Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose là-dessus. L'idée était... aussi, et c'est ça l'objectif de nos échanges, de poser des éléments de constat. On n'a évidemment pas la réponse ici. Action Logement prend sa part. J'espère que vous serez davantage entendus, comme je suppose un certain nombre d'autres de vos collègues. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus poser ces enjeux et cette problématique. Merci Monsieur le Maire. Je rappelle qu'évidemment ce podcast sera disponible sur Radio Immo et Radio Territoria, ainsi que sur le LinkedIn d'Action Logement. Merci à tous les trois.
Merci.
En action pour le logement abordable et durable, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.